Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour, bienvenue dans Radio Lomax, l'émission du 106, chaque lundi à 18h sur Radio HDR et Principe Actif, rediffusée les samedis à 11h et écoutable chaque soir de concert sur la web radio du 106, radio.le106.com. Aujourd'hui, les interviews de Naïve, New Beaters, Sophie, Rosemont et Auré.
Radio Lomax, l'émission du 106.
On accueille les Naïve New Beaters. Bonsoir.
Ouais,
bonsoir.
Martin, bravo. Martin Luther, BB King.
Présent.
Eurobelix. Et David Boring.
Oui,
ils
bonjour.
Sont tous les trois là. Comment est le mood ce soir?
Eh bien, il est bon.
Ah, hein, c'est vrai qu'il y a un bon mood.
Moi, je suis très content de retour parce que j'ai toujours passé des super concerts à Rouen au 106, même quand il était au format chapiteau.
Ouais.
Il y a bien 10 ans.
Oh, le mec connaît son historique.
Il connaît son historique.
Et puis, on était déjà venu faire un petit coucou dans le studio radio la dernière fois qu'on était.
C'est vrai.
C'est notre deuxième fois à la radio.
Non, on avait même fait une interview sous le chapiteau. À l'époque, il n'y avait pas de studio radio.
Oui.
On avait fait autour d'une table.
Tout à fait.
Donc, c'est notre troisième fois.
C'est la troisième fois qu'on se rencontre effectivement. 14 ans d'existence, bah du coup, bam, forcément.
Oh non, c'est pas cool.
Premier album en 2009.
14 ans, déjà.
Wallace, vont suivre la Honda en 2012 et à la Folie en 2016. Fun Hours est sorti en octobre 2019. On est à quel moment finalement de votre vie artistique du coup là?
C'est le retour.
C'est le retour,
c'est
ouais,
le comeback.
Déjà.
C'est le comeback. C'est le moment de faire un best-of aussi.
Ah ouais.
Ouais. C'est vrai que le prochain album,
4 albums, ça commence
à sentir
à
le.
Ouais. Et d'ailleurs, Spotify nous a fait une playlist genre This is Naïve New Beaters et en fait c'est une sorte de best-of. Moi j'étais assez content.
Ils nous ont pas consulté pour le choix des titres.
Non, mais en fait je crois qu'ils ont mis vraiment dans l'ordre des plus écoutés.
Ah.
Et donc c'est un peu le phénix, le retour.
Ouais, des on n'était pas brûlés non plus, mais on est là, on est chaud pour défendre Fun Hours.
Et
ce soir ici même.
Il y a un storytelling particulier à raconter sur cet album-là.
Disons qu'en fait, il vient après À la Folie où on s'est un peu tous les trois fait larguer, donc on était un peu en rupture sentimentale.
C'est vrai.
Et là, c'est un peu l'après, quoi. Et ce moment où tu te dis, il faut profiter des moments.
Oui, l'album d'avant, c'était un album de réaction, j'ai envie de dire.
Ouais.
Et cet album, c'est un peu un album de plus de. Pas sérénité, mais de profit, effectivement.
Ah, enfin, donc, on passe de la réaction au
passé
profit.
Du bon temps.
Exactement. Du nouvel élan à prendre une fois qu'on a chuté, qu'on
c'est
se relève
ça.
Pour repartir. Quoi.
Voilà.
Exactement. C'est bien. Ouais. Il ne l'a jamais résumé comme ça, Martine, mais j'approuve, moi,
bon.
Perso. Je ne sais pas pour Euro, mais.
Moi, j'ai bien aimé tout ce que vous avez dit, les deux, à égalité.
Ça, c'est agréable.
Alors, ça, c'est un morceau qui date de l'album précédent, il me semble, Words Hurt.
Mm-hmm.
C'est donc le fameux clip interactif de l'album précédent. J'ai l'impression que c'est une chanson qui définit bien votre vision du monde, un petit peu une sorte de celle que vous avez de l'absurdité de nos vies en quelque sorte, un peu, non?
Dans le clip, on retrouve pas mal de. Oui, que les mots.
Les mots parfois ça te blesse, mais en même temps il faut aller au-delà. Et c'est vrai que dans le clip, tu choisissais un peu ta voix. Pas forcément en fonction de ce que tu dis, mais
il y a quelques absurdités aussi dans le clip qui sont tout à fait
c'est vrai.
Ludiques.
Mais on se rend compte que si on choisit une direction ou une autre, finalement, quelquefois, il y a des mauvais choix, et puis les mauvais choix ne sont pas forcément ceux qu'on croit.
Ouais, et puis on s'y fait aux mauvais choix aussi.
C'est ça.
Et ça en devient des bons choix, limite.
Mais au final, tout finit mal.
Oui, globalement,
si je dis pas de bêtises,
d'un
certain point de vue.
Mais c'est un peu la life, quoi. De façon,
une chanson nihiliste, en fait.
Oui, à la fin, on meurt, quoi qu'il.
Ouais, c'est ça. C'est ce qui fait l'absurdité de nos vies en quelque sorte. Il y a eu forcément des tournées dans toute la France, les plus gros festivals en Europe et une tournée en Chine.
Ah, c'est vrai.
Il y a longtemps.
Il y a quelques temps. Oui.
Donc ça va.
Non, on est bien, on est clean. Hein,
okay. Parce que là, en ce moment, forcément, revenir de tourner en Chine, c'est pas forcément le meilleur.
On aurait fait peut-être un autre film de cette tournée en Chine.
Parce qu'effectivement, il y a un film qui a été tourné en 2015 pendant la tournée qui s'appelle Yo Pékin.
Excellent.
Voilà, c'est ça. Alors, je sais plus si on avait raconté l'histoire, mais c'est vrai que ça part d'un mot aussi, encore une fois, ou deux mots.
C'est ça, des mots qui blessent. Et puis, en fait, c'est pas vraiment ça qu'on voulait dire, quoi.
Non.
C'est-à-dire, en gros, on aime bien haranguer le public et pour leur dire est-ce que vous êtes chaud ou pas chaud, on dit nimen je pu je ma, ça c'est du chinois, mais si tu le dis mal, nimen je pu je ma, ça veut dire est-ce que vous êtes des enculés ou pas des enculés, ce qui est un peu plus agressif.
Et donc, du coup, forcément.
Et du coup, s'ensuit notre arrestation.
La marée chaussée s'en est mêlée, et voilà.
Et selon la prononciation des mots, quelquefois, il y a deux directions possibles, encore une fois, quoi.
Voilà, c'est pareil que quand tu insultes quelqu'un, tu peux l'insulter et puis que ce soit sympa, ou tu l'insultes et ça le blesse.
D'accord. Et vous parlez bien chinois
Assez approximativement, mais pendant la tournée, j'étais un peu le régisseur chinois, quand même.
C'est vrai, Martin. C'est pour ça qu'on a loupé 2-3 trains, d'ailleurs.
Voilà.
mais c'est vrai que heureusement qu'il était là quand même pour commander à manger, déjà, tout simplement.
Déjà, on a pu se nourrir.
J'ai vu que vous avez été chroniqueur aussi pour Canal+, dans un truc qui s'appelle Canal B, c'est ça?
Ah oui, c'est vrai, mais l'émission s'est arrêtée, voilà. Ouais. Donc j'ai été viré sur le coup.
Mais là, pour le coup, il y avait encore cette passion pour les mots, pour l'entertainment. Je trouve que c'était vraiment une chronique qui a envoyé, pleine d'énergie, de peps
et de vie.
Ouais. Et ça, c'est pas des choses que vous avez envie de recréer. Vous pourriez faire des émissions de télé. Moi, je sais pas, à chaque fois, je cherche à vous recadrer.
Fais croquer les potes.
Ah ouais, c'est ça.
C'est vrai qu'on avait une émission sur une radio concurrente, WFM, et qu'on se disait, ce serait cool qu'on la relance.
Et oui,
différemment. Ouais. Mais bon, quand même, ce serait cool qu'on ait notre talk show.
Parce
qu'on en a à dire.
Puis en plus, on a déjà le titre, il s'appellerait Fun Hours.
On a déjà le titre, autant la faire.
Bah oui.
Et puis en plus, aujourd'hui, on peut faire de la radio de n'importe où. Vous n'êtes pas obligé de rester en studio. Sur la route, ce serait super.
C'est pas faux.
Un podcast sur la route.
Radio mobile.
Dans le bus.
Des interviews, tout ça. Ouais.
Radio dans le bus.
Ouais.
Très bien. Radio bus.
À plus dans le bus, sinon ça c'est Tom,
tu notes?
Alors Tom, qui est le stagiaire, qu'on ne voit pas, je ne sais pas si on le voit à l'image.
Il est là, il nous filme, je lui ai laissé mon portable, donc là je flippe en fait.
Il est en train de regarder tes textos.
Oui, regarde les textos.
Surtout les textos où on parle de lui.
Voilà. Mais en tout cas, il a l'air hyper concentré pendant qu'il filme. Et ça, c'est plutôt sa grande qualité, la concentration.
C'est bien, il faut se concentrer pour aller de l'avant. Fun Hours, donc le bien nommé, il faut dire que depuis vos débuts, vous cherchez ça un peu, à envoyer de la bonne humeur, de la bonne vibration, du soleil, du fun.
De la good vibe.
De la good vibe, c'est ça.
C'est hyper cool.
Ça vous arrive quand même, les coups de mou un peu, et comment est-ce que vous gérez ça entre vous, par exemple?
La dernière fois, c'était à la folie, puis on en a fait un album, du coup.
C'est vrai que
via la musique, tu peux un peu traiter ton coup de mou.
De différentes façons, en explosant, en introvertissant
sentiments, en introspectant le truc. Et déjà, on est trois, donc s'il y en a un qui est mal, forcément, les deux autres, ils ne sont pas aussi mal. Donc, on se récupère chacun.
Mais forcément, vous n'êtes pas tout le temps en train de déconner, en train de vous marrer.
Qu'on a l'impression de ça, en fait. Déconner aussi.
Il faut être concentré pour pouvoir faire ça tout le temps, quoi.
Ah, quand même, c'est vrai, ça demande quelques petites capacités de concentration.
Donc vous êtes parti en Ardèche pour inventer ce nouvel album là. Vous pouvez nous décrire cet endroit?
Mais c'est entre autres.
C'est vrai. Parfois, on est parti à Los Angeles, mais là en Ardèche, ça sonne bien aussi.
Los Angeles, c'est récurrent.
Donc là, c'était le côté spécial, l'Ardèche.
Truc un peu nouveau.
C'est le manoir de Eurobelix. Eurobelix, il est comment ce manoir?
Mais moi je l'adore, donc j'essaie toujours de les traîner un peu parce que j'ai mes petites habitudes là-bas. C'est un village qui ressemble un peu à un village où c'est nous qui faisons la loi, quoi. On roule un peu sans ceinture, on fume dans les bars et tout. Donc déjà il y a une bonne ambiance, c'est cool. Et j'ai mes petites habitudes et je suis content quand on s'isole un peu là-bas parce que déjà c'est chez moi. Et c'est marrant. Après il se trouve que l'album en fait on l'a plutôt fait dans plein de petits lieux. Et notamment aussi à Los Angeles, mais même dans plein de petits bleds où on louait des trucs et on s'isolait 4-5 jours, c'était cool.
Mais comment ça se passe finalement une journée de travail quand on est isolé comme ça dans une maison qu'on loue au fin fond de la campagne?
David Boring est pas mal en cuisine. Ah ouais. Ça faut le savoir. Ouais, ouais, il a des recettes assez incroyables.
Oh, bah, toi, t'es pas mal hein, quand même. Depuis quelques années, il a développé un bon talent culinaire.
Mais par exemple, faites quoi comme style de recette?
Des boulettes.
Ouais, des boulettes de reste.
On avait fait un pot-au-feu. De reste. Et le lendemain, on a fait des boulettes avec les restes du pot-au-feu. Ça, c'était assez bizarre. Ah, et c'était très bon.
Ouais.
Très, très bon.
Des boulettes grillées à la poêle ou au four?
Bah, en fait, il avait fait une petite chapelure, c'est ça?
Oui,
hein
oui, oui.
Ah,
c'est
oui, d'accord.
Avec les restes du pot-au-feu qui avait bien durci vu qu'on l'avait laissé dans la casserole comme ça. Et du coup, on s'est dit, ah, bon, ça a l'air dégueulasse, mais autant transformer le dégueu en potable. Et c'était comestible.
C'est très bon.
Et faire avec les restes, c'est souvent ce qu'on fait de meilleur. Quoi.
Bah ouais. Bah, c'est comme ça qu'on fait nos albums. Hein. On récupère des vieux morceaux. Non, pas tout le temps.
Un peu de chapelure.
Hop, c'est doré. C'est
mais ça serait pas idiot parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ouais, comme il y a des parallèles entre la cuisine et la musique. C'est vrai. Et il y a beaucoup, c'est vrai, de plats qui sont meilleurs le lendemain. Quoi.
Ah oui.
C'est vrai.
Des réchauffés, effectivement.
Ouais, ça donnerait quoi un morceau qui est meilleur le lendemain? Bah, tu l'as écouté sur le coup de
non, tu le fais et puis tu le laisses un peu poireauter 6 mois, 1 an et tu le redécouvres. Tu dis, ah putain, yes. Et là, on l'arrange et on le met dans un
disque. Vous n'en avez pas des morceaux comme ça qui traînent et bout de trucs
Si. Le morceau Fun Hours, d'ailleurs.
Ah oui.
Éponyme de l'album, qui a subi pas mal de transformations.
Ouais, j'en ai dessus, on l'a martyrisé.
Ouais, mais il revient de loin. Hein. C'était déjà un candidat pour À la folie.
Parce que ça veut dire qu'il y a des morceaux comme c'est ça sur lesquels vous travaillez, que vous abandonnez, que vous
Mais oui, c'est
vous
trop triste.
Qu'est-ce
qu'il y a? Vous n'êtes pas d'accord.
On s'en fout.
Vous n'êtes pas d'accord.
Oh, si, peut-être. Mais il a peut-être raison. Je me
ah oui.
Il y a tellement longtemps que je ne sais plus. Moi, j'ai plus toute ma tête.
Non, mais c'est trop triste. Les morceaux, il y a les laissés pour compte au dernier moment, et il y a ceux qui se font rattraper aussi. Ceux qu'on se dit bon, ceux-là, vas-y, ils sont brelous, on va pas les mettre dans le disque. Et au dernier moment, on se dit, ah, en fait, finalement, il est pas si mal. Et hop, séance de rattrapage, et il arrive sur le disque. Et les pauvres qui sont pas sur le disque, à jamais enterrés dans des disques durs. Et
parfois, il arrive un peu métamorphosé aussi. Enfin, il s'est pris un lifting dans la tronche, quoi.
Mais ça veut dire que vous rejetez une oreille quelquefois dans les vieux disques durs en se disant, oh, tiens, finalement, cette ligne de basse ou cette gratte, on va la garder et elle peut servir à quelque chose.
Ça, on a rarement fait ça.
Non, mais au studio russe, se faire un tour de disque dur. Ça, c'est toujours agréable. Genre, qu'est-ce que tu as fait par le passé? Au moins, tu es content de toi, tu vois. Et ça te permet de réattaquer bien.
Ce qui est vrai, c'est que souvent, on dit, c'était vraiment cool, mais on ne fait rien dessus. Quoi.
Oui, c'est vrai.
Et donc, finalement, vous faites comment? Vous passez en studio assez rapidement? Qu'est-ce que vous faites dans ces petites maisons que vous louez à la campagne? Vous amenez une gratte? Il y a du matos?
Un ordi. Et puis non, il y a pas assez parce que c'est des sans vouloir leur faire de pub, des Airbnb qui sont tout à fait
nus, vierges,
destinés au commun des mortels, pas du tout aux musiciens. Et on ramène un petit peu un ordinateur portable, un micro, une guitare, un synthé et hop, et on compose
les premières mélodies. Voilà. C'est les mélodies qui arrivent.
Et puis on se dit, viens, on essaie de faire deux morceaux par jour parce qu'on réussit pas tout le temps, mais. Bon, au moins, il y en a un par jour, au moins, qui nous botte.
Ah oui, et ça veut dire que vous y mettez de bonne heure le matin, quoi, j'imagine, non? Parce que pour faire deux morceaux,
c'est variable.
Peut-être qu'on ira
ça dépend ce qui s'est passé la veille.
On fait que ça toute la journée et cuisiner. Mais là, pour le coup, il n'y a aucune autre activité, genre vraiment rien.
Et puis ensuite, une fois que vous avez l'impression d'avoir la matière nécessaire de nombre de morceaux, avec le schéma minimum, vous partez en studio.
On congratule d'abord. On en compile plein et puis.
Et on les travaille à la maison, parce qu'on part pas vraiment en studio dans le sens partir en studio comme il y a quelques années où des artistes arrivent dans un vrai studio avec une grosse table de mixage. Ça, on fait encore beaucoup. Bah, la plupart de ce qui est sur le disque dans des home studios, même avec les gens avec qui on retravaille, c'est pas non plus dans des studios classiques. Comme il peut y en avoir, quoi. Donc, c'est plutôt fait maison, en fait.
Donc, c'est un long travail artisanal.
En fait, le premier jet arrive plutôt vite, mais ensuite, on rumine pas mal le premier jet.
Et ça passe dans plein de petits endroits différents,
Et il y a une évolution dans ce travail de création qui démarre dans ces petits Airbnb jusqu'au moment où on finalise un master.
Certains morceaux, tu les reconnais presque plus. Et d'autres qui sont assez fidèles aux maquettes.
Premières idées, tout à fait.
Les voitures, vous avez un truc avec les voitures, non ? Il y a beaucoup de voitures.
Ah, ça se voit. Hein.
Ouais, j'ai l'impression.
Ça se voit, on kiffe cramer l'essence, quoi.
Les voitures.
On voulait célébrer la fin de l'automobile.
Cramer l'essence sans ceinture de sécurité, si possible, quoi.
Bah oui.
Non, non, je plaisante.
Ah, c'est vrai qu'on ne met pas souvent les ceintures, ouais. Quand on...
Bah, les tu piscines fais et les voitures, quoi.
Oui, oui, tu fais référence à la pochette et au clip de Fun Hours.
Exactement.
Mais il y en a eu d'autres, des clips comme ça avec des voitures, j'ai l'impression, moi. Il me semble comme ça, vu de nez.
Ouais, c'était pas vraiment voulu, mais c'est vrai qu'on. On s'est fait un thème automobile.
Ouais. C'est pour fêter la fin, peut-être.
Peut-être indirectement. Ouais.
Et puis la aussi, fin d'une ère, quoi.
Et puis, on n'a pas de voiture aussi. Donc, nous, chacun, on n'a pas de voiture. Donc, du coup, c'est l'occasion aussi dans les clips de.
C'est un fantasme.
De sorte de fantasme.
De kiffer.
Ouais. Bon. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question ?
Déjà, elles sont très, très bien. Hein. Toutes les questions qu'on a épluchées. Là,
ouais. Alors j'avais un truc sur l'univers visuel, l'image très importante, mais ça c'est un peu nul. Vous invitez Jean Jass, sur cet album là.
Ouais, on l'a invité dans un camion d'ailleurs. Ouais.
Ouais.
Ah oui tiens.
C'est en parlant de voiture.
Oui en parlant de
voiture. Dans le film de Make Way. Pourquoi cet homme ?
Cet homme il correspond. Alors là, pour être sincère, c'est pas genre notre gros poteau à la base et tout. C'est plus on avait fait ce morceau. Et on se disait, ah putain, ce serait vraiment cool que.
Sans putain, dis beaucoup de gros mots.
Ouais,
je
c'est vrai. Qu'est-ce que je raconte tiens, ça serait
bien. Et en plus,
bien.
On lui serre la main quand on le voit.
Ah tiens, ça serait bien qu'il y ait un couplet de quelqu'un d'autre qui vienne rapper un peu sur ce morceau parce qu'il s'est prêté musicalement. Et on cherchait un peu des gens parce qu'on a toujours bien aimé le rap et on a fait quand même d'autres morceaux avec des rappeurs. Mais quelqu'un qui soit un peu dans un univers un peu fun, quoi, un peu pas un gros vendeur de drogue en bas d'une cité, ça nous correspond un peu moins.
Même si on c'est aime super, les vendeurs si de drogue super aussi.
Mais Jean Jass correspondait pas mal et du coup, on lui a envoyé le morceau et il a kiffé le morceau.
Ok.
Et il s'est dit, ok les gars, je viens au studio et je check ça.
Mais d'ailleurs, à David Bowie, j'ai l'impression qu'il y a plus de rap un peu sur plus en plus de morceaux rappés, non ? Je me trompe ?
Disons que le premier album, il était peut-être plus. Ensuite, deuxième, un peu moins. À la folie, c'était une sorte d'entre-deux. Et là, peut-être, oui, un petit retour au hip-hop.
Bon, quelque chose à ajouter ?
Écoutez Fun Hours.
Moi, j'ai passé un très bon moment, merci.
Ouais, c'est vrai.
Écoutez Fun Hours, venez
ce soir.
Il faut se mettre dans une condition particulière pour venir voir un concert de Naïve New Beaters. Est-ce qu'il y a un conditionnement particulier ?
Franchement, non.
Non, parce que
il faut faire des échauffements peut-être avant.
Parce qu'on va
peut-être demander au public de nous aider sur certaines chorés millimétrées.
Avec des vêtements trop serrés, trop guindés.
Il faut
être
à l'aise pour pouvoir bouger.
Il faut être à l'aise. Ouais.
Parce que ça, c'est aussi une de vos caractéristiques sur scène. Il y a de temps en temps des chorégraphies acrobatique. Bien pensées.
Ah bah, du coup, depuis ce fameux morceau qu'on a fait avec Jean Jass, donc Make Way, on a inventé une nouvelle chorégraphie.
Ouais, c'est vrai.
On attend du public qu'il nous aide à la réaliser.
Parce que déjà, nous-mêmes, on n'arrive pas trop bien à la réaliser. Donc, une aide du public, c'est toujours bienvenu.
Donc, on déconseille les vêtements synthétiques pour venir au concert.
Eh bien, c'est noté. Merci, les Dave Newbeaters.
Merci à toi.
Addicted to joy. be. Sweet like a mango, needing a bongo, humping up with me. Bragging around, TV's in town, here for fun you see. I'm socially tight, totally bright, teaming up with me. Pleasure line, I'm back in the game, be as you wanna be. Crap on street train, working in chain, providing a tea. Waving your hands, lifting your lands, but what you want I'll be. I thought it would never, never happen again. There's joy to win, and I love this game. I thought it would never, never be that intense. Love's giving me now a second chance. Addicted to joy, a time to love and that's all. Addicted to joy.
Bonsoir Sophie Rosemont.
Bonsoir, merci Sophie, de m'accueillir.
Vous êtes journaliste, chroniqueuse pour La Dispute de France Culture. Vous avez été également écrit pour Le Nouveau Dictionnaire du Rock, dirigé par Mishka Assayas. Et vous venez nous présenter votre livre intitulé Girls Rock. Alors, Sister Rosetta Tharpe, Aretha Franklin, Dolly Parton, PJ Harvey, Alila Diane, Angel Olsen, Kate Bush, Sioux, Chrissy Hines, Keane, Tina Turner, Pat Benatar, Catherine Ringer, Annie Lennox, Véronique Sanson, Joan Jett, Kim Gordon, Björk, Karen Dalton, Yoko Ono, Marianne Faithfull, Nico, Bess Gibbons, Suzanne Vega, Odetta, John Bess, Patti Smith, Lydia Lunch, Sinead O'Connor, Courtney Love, Amy Winehouse, Janis Joplin. La liste est longue et non exhaustive, évidemment. Elles sont plus de 140 dans votre livre. Après coup, est-ce que vous avez l'impression d'avoir raté quelqu'un? Une girls rock
Ratée, je ne sais pas, sans doute. On rate toujours quelqu'un, je pense, sans forcément le savoir. En revanche, que j'ai dû en laisser certaines de côté ou les effleurer plus rapidement que d'autres, oui, j'ai dû faire des choix, car il faut savoir qu'à la base, ce livre devait être beaucoup, beaucoup plus court. J'ai largement outrepassé les limites données. Et à un moment donné, on m'a clairement coupé le robinet en me disant que si je faisais trop long, on n'allait pas sortir le livre.
Hein. Il y en aura peut-être un deuxième tome, du coup.
J'aimerais bien faire un deuxième tome, mais qui serait peut-être plutôt Girls Groove, avec les femmes de la soul, du R&B, du hip-hop et de l'électro aussi. Et puis bon, pourquoi pas, mais là, ça sera un autre chantier, Girls Pop. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura d'autres aventures à venir pour ce Girls Rock.
Bon, alors, c'était l'envie de revisiter, évidemment, l'histoire de la musique rock avec les actrices de cette histoire, de les repositionner sur la carte. C'est ça qui vous a poussé à écrire ce livre ?
Exactement. C'est, voilà, vous l'avez très bien résumé. Et j'apprécie d'ailleurs que dans les artistes que vous y citez, vous citiez des personnes comme Alela Diane ou Pat Benatar, dont personne ne me parle jamais quand on parle du livre. C'est vrai que c'est très facile de parler de Marianne Faithfull ou de Patti Smith, c'est ce qui est normal, on les adore. Mais il y en a aussi d'autres qui sont absolument merveilleuses. Mais en tout cas, oui, c'était exactement ça, leur donner un peu plus de place et raconter leur histoire.
C'est comme si on découvrait finalement en lisant votre livre une nouvelle dimension de cette histoire du rock. Ce serait quoi cette dimension selon vous ?
Une dimension qui n'est pas soumise aux contraintes du patriarcat, ça va faire très, très militante féministe ce que je dis, mais bon, au final, quand on est une femme et qu'on va faire du rock'n'roll et qu'on est dans les années 60, on est quasiment une activiste, hein, c'est pas loin de ça. Montrer que malgré les a priori qu'on a sur le rock'n'roll au sens large, c'est-à-dire une musique radicale, abrupte, donc forcément masculine, des femmes peuvent être aussi radicales, abruptes, et dire non à beaucoup de choses et être anticonventionnaliste.
Vous parliez des années 60 et de la difficulté que ça pouvait être de s'engager dans cette voie-là dans les années 60. Mais les premières artistes dont vous parlez, c'est dans les années 20. Les premières femmes à chanter, à se mettre derrière une guitare, c'est Trixie Smith, par exemple. Et puis ensuite, il y a Bessie Smith qui arrive, Ma Rainey ou Sister Rosetta Tharpe. Vous nous parlez d'elles ?
Oui, oui, tout à fait. Ces femmes-là ont vraiment... elles, pour le coup, souffert. Les victoires qui ont été gagnées dans les années 60, elles ne les ont pas vraiment gagnées. Quand on pense que Sister Rosetta Tharpe est rentrée au Rock and Roll Hall of Fame il y a 2 ans, que Big Mama Thornton, qui a quand même chanté pour la première fois Hound Dog, c'est Elvis qui l'a rendue connue, mais c'était elle. Hein, c'était Big Mama Thornton n'est toujours pas rentrée au Rock and Roll Hall of Fame. Elle est morte dans le dénuement le plus total. Bessie Smith, on sait à quel point sa fin a été tragique. Ce sont des femmes qui se battaient au quotidien, qui étaient très pauvres. En plus, elles étaient de couleur noire, donc évidemment, aux États-Unis à l'époque, c'était les États-Unis des années 20 et 30, c'était la ségrégation. Donc oui, pour ces femmes-là, même si maintenant on se repenche sur elles, que des choses se passent, que le superbe livre d'Angela Davis sur le blues féminin a beaucoup œuvré il y a quelques années, très peu d'histoires leur a été donnée, très peu de place dans les radios, dans les livres, dans les expositions, dans les playlists. Et ça, c'est une véritable injustice. Et dans les années 60, c'est là où on a commencé à pouvoir gagner au bout du chemin. C'est-à-dire que partir était un risque. On va dire qu'elle réussissait une fois sur 50, mais au moins, il y avait cette réussite. Dans les années 20, quand on était une femme, qu'on voulait prendre une guitare et la brancher, on avait quand même très peu de chances de réussir, en tout cas, de gagner sa vie. Sister Rosetta Tharpe a joué très longtemps. Elle est décédée moins jeune, moins jeune que, par exemple, Bessie Smith ou même Ma Rainey. Mais... quand est-ce qu'elle a gagné de l'argent ? Jamais.
On imagine que ça a été un combat de tous les jours, en fait, hein, ces vies qu'elles ont choisies. En tout cas, ce qui ressort, c'est cette liberté-là et cette volonté de se lancer dans cette chose qui est la musique rock et le blues aussi à l'époque.
Tout à fait.
Comme si c'était viscéralement... en elle, quoi.
Mais c'est ça, c'est viscéral. C'est un choix qu'elle ne pouvait pas renier, qu'elle ne pouvait pas occulter, même si elle savait que ça allait leur poser des problèmes. Et après, elles en ont fait aussi un étendard, parce que non seulement elles étaient fortes, Sister Rosetta Tharpe a quand même inspiré tous les grands guitaristes d'aujourd'hui, et même de l'époque à la fin du XXe siècle. Mais certaines, comme Bessie Smith, étaient très fortes en caractère, étaient déjà des vraies féministes, se laissaient pas compter. Ma Rainey ne voulait pas rester dans l'ombre des musiciens blancs. Elles se sont vraiment battues à tout point de vue. C'est là où on se rend compte qu'au final, la musique et donc le rock'n'roll ici est un reflet supplémentaire de la société. Ce qui se passe dans la musique, c'est aussi ce qui se passe dans la société. Ces femmes, si elles ne s'étaient pas battues avec la musique, se seraient battues avec autre chose. Mais elles ont choisi la musique, ce qui était peut-être un des choix les plus difficiles, mais au final qui leur a permis de rester quelque part... indépendante.
Et on trouve là peut-être en partie les racines du combat féministe, quoi.
Exactement. Ah oui, pour moi, Sister Rosetta Tharpe, c'est une féministe. C'est quand même quelqu'un qui a été mariée juste pour changer de nom et puis pour faire plaisir à sa mère 4 ans. Et hop, après, elle est partie à New York. Elle a changé une lettre dans le nom et elle est devenue quelqu'un d'autre. Et après, oui, elle a fait un autre mariage qui n'a pas duré très longtemps. Elle a été en duo avec une autre jeune femme. Mais en tout cas, elle était vraiment très... pas du tout attachée aux côtés mon mari, mes enfants, la popote, ce qui était aussi le cas de Bessie Smith ou de Ma Rainey ou même de Gladys Bentley dont je parle, qui n'était pas tout à fait une rockeuse, mais qui lors de la renaissance de Harlem dans les années 20 a épousé une femme qui a priori, c'est pas vérifié, mais a priori était blanche, donc c'était vraiment la totale, et qui était absolument totalement révolutionnaire et que tout le monde a oublié.
Shirley Manson, la leaderuse de Garbage, écrit dans la préface, elle vous a donc écrit la préface de ce livre, que les filles pratiquent le rock'n'roll d'une manière complètement différente que le club des hommes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
En gros, pour elle, pour Shirley Manson, c'est... Shirley Manson, c'est quelqu'un qui est très attaché au combat féministe depuis toujours. Là, son dernier cheval de bataille, c'est l'afroféminisme, d'ailleurs, très inspiré par Angela Davis, bon, avant par Gloria Steinem. Et pour elle, la dimension, les tripes que mettent les femmes dans le rock'n'roll, la musique qu'elles pratiquent, d'ailleurs au sens large, ne peut pas être tout à fait celle des hommes, parce que les hommes, finalement, ça leur est plus facilement acquis. On les reconnaît plus facilement. On salue leur gloire plus facilement. Quand on cite là aujourd'hui, encore en 2020, quand on dit quelles sont vos icônes rock'n'roll, n'importe qui, beaucoup de gens, après je dis n'importe qui, en tout cas dans les médias par exemple, ce qu'on peut voir, on va dire Keith Richards, Mick Jagger, David Bowie, Lou Reed, Jim Morrison, qui sont des artistes que j'adore au demeurant, mais qui sont tous des hommes, aussi féminins soient-ils.
Quels clichés vous avez déterrés? Quels sont ceux les plus tenaces, peut-être? Lesquels vous vouliez absolument liquider? Est-ce qu'il y avait des clichés comme ça que vous aviez envie de régler?
Justement, ce cliché de la femme rockeuse est forcément une femme toute vêtue de cuir, à la Pat Benatar ou à la Joan Jett, qui a l'œil mauvais. Non. C'est pas que ça. La rockeuse, c'est aussi Joni Mitchell, c'est Joan Baez, c'est Yoko Ono. Où il y avait aussi ce côté, la rockeuse, c'est forcément une guitare. Alors oui, ça fait partie de mes critères. Qu'est-ce qui est rock'n'roll, qu'est-ce qui n'est pas? Ça, c'est un vaste débat, on pourra en parler pendant des heures. C'est vrai que je me suis beaucoup basée sur le rock'n'roll, mais une Kate Bush est une rockeuse. Bon, elle joue merveilleusement bien de la guitare électrique, on le sait pas assez, mais... Et Véronique Sanson a fait du rock'n'roll sur le piano. Sans quoi, d'ailleurs, elle se rapprochait de quoi? À l'époque, son label français voulait en faire la Joni Mitchell française. Et ça a été une des plus rockeuses de cette époque-là. Donc ça fait partie de ces clichés-là. Et aussi qu'on peut être, et je crois que c'est vraiment un des clichés que j'ai voulu vraiment combattre, on peut être sexy en faisant du rock'n'roll. PJ Harvey, Saint-Vincent, Kate Bush aussi. Beaucoup de femmes l'ont prouvé, Tori Amos. Cat Power, on peut avoir envie de mettre des mini-jupes et des talons hauts et jouer de la guitare et plaquer des gros riffs devant tout le monde. Je pense que c'est très important, ça.
Et alors, dans ce livre, vous avez demandé à des artistes françaises de vous parler des artistes féminines, justement, qui les ont fortement marquées. C'est un des principes de ce livre, d'ailleurs. Il y a des portraits, mais vous avez beaucoup axé là-dessus. Il en ressort quoi, de façon globale, de ces témoignages-là?
Il en ressort que même si elles ne font pas du tout de rock'n'roll, peu sont vraiment des rockeuses, entre guillemets, avérées. Elles ont été influencées par des figures iconiques du rock'n'roll. Par exemple, on m'a souvent demandé pourquoi Jane témoigne dans ce livre. Mais parce que Jane, bon, en l'occurrence, je l'ai interviewée dans le cadre de mon métier de journaliste. Et quand elle a commencé à me parler de Janis Joplin, ce n'était pas du tout prévu. Elle avait vraiment des étoiles dans les yeux. Elle connaissait par cœur tous ses concerts. Et c'est ahurissant qu'on voit ce que la musique fait Jane, hein, que je ne critique pas du tout, mais qui est quand même juste très, très loin. Et donc, montrer que malgré la différence du point de vue générationnel, du point de vue géographique, du point de vue générique, ces femmes ont fait passer des messages. Et ensuite, il y a aussi il y a peut-être un plus joli mot pour dire ça, mais l'incitation qu'elles ont pu susciter. Une Clara Luciani, typiquement, m'a dit, voilà, s'il n'y avait pas eu PJ Harvey, cette espèce de vidéo que j'ai vue sur YouTube où elle joue avec ses super jambes, ce t-shirt où il y a écrit « Lick my legs » et elle joue divinement bien et c'est la reine et tous les mecs jouent autour d'elle et c'est elle qui maîtrise le jeu. Jamais j'aurais pensé que c'était possible, mais jamais. Adrienne Pauly, pareil. Quand elle me parle de Mama Cass, c'était assez drôle. Elle m'a dit, quand j'étais ado, j'étais grosse. Et un jour, j'ai vu Mama Cass, j'ai fait, ah, mais elle est grosse comme moi, ça veut dire que moi aussi, je peux chanter. Donc voilà, c'est des modèles.
Vous expliquez d'ailleurs Mama Cass qui a souffert de misogynie, mais aussi de grossophobie.
Complètement. Mmh. C'est-à-dire que c'est quand même ahurissant qu'on dise encore qu'elle est morte étouffée par un sandwich. Enfin, c'est infect de dire ça, c'est pas vrai du tout. Qu'elle soit morte par ses excès, et notamment de drogue, c'est la triste réalité, mais le coup d'être étouffée par un sandwich, c'est vraiment dégoûtant.
On retrouve aussi des extraits d'interviews que vous avez pu mener, vous le disiez, avec Jane par exemple. Il y a eu chez vous très tôt cette volonté de récolter des propos de femmes en musique. Et vous étiez particulièrement attirée par les artistes féminines très tôt, vous êtes dit
Justement, pas spécialement. C'est-à-dire que moi, mes premières idoles, c'est vraiment Jim Morrison et Lou Reed. Vraiment, c'est deux artistes qui m'ont beaucoup marqué, qui me marquent encore beaucoup, sur lesquels je travaille toujours. Et c'est en faisant Girls Rock que j'ai réalisé à quel point Jim Morrison et Lou Reed étaient extrêmement féminins, dans leur manière d'être. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, comme toutes les grandes icônes rock soi-disant viriles, Elvis, c'était quand même une diva, vraiment. Et je crois que celle qui m'a ouvert vraiment au rock féminin, hormis cette voix de Nico que j'entendais dans mes disques du Velvet Underground, mais qui est restée finalement tellement masculine, tellement grave, tellement éthérée, un petit peu à part, c'est Courtney Love. Moi, c'est vrai que quand j'ai découvert Courtney Love au début du collège, oui, je pense que ça devait être ça, j'étais bouleversée par cette femme. Et très vite est apparue Patti Smith. Mais aussi pour son côté poète. Moi, j'ai fait des études littéraires, j'ai beaucoup travaillé la poésie et j'ai travaillé notamment Arthur Rimbaud. Et en lisant, enfin en faisant des recherches, j'étais à la fac et je faisais des recherches sur qui avait pu écrire sur Arthur Rimbaud. J'ai réalisé que Patti Smith, cette rockeuse, était une grande amatrice d'Arthur Rimbaud. Donc les choses se sont faites petit à petit. Et ensuite, quand j'ai commencé à être journaliste, j'ai pas forcément choisi d'interviewer plus de femmes que d'hommes. D'ailleurs, c'est pas le cas. D'ailleurs, la parité n'apparaît pas du tout dans les interviews, le nombre d'interviews que j'ai faites. J'en ai fait quand même à peu près 900, même si je fais mon max pour faire des femmes. Mais au début, étant que j'étais une jeune femme, que je débarquais dans Rolling Stone, et ben on m'envoyait faire les jeunes femmes ou les jeunes mecs. Ça aussi, hein, typiquement. Comme si je n'étais pas capable d'aller interviewer des guitaristes de 50 ballets. Et en échangeant avec ces femmes au fur et à mesure et en voyant comment elles parlaient les unes des autres, très vite, il y a quelque chose qui est apparu en moi, en me disant qu'il y a quelque chose à creuser. Car j'ai réalisé pendant mes interviews que, contrairement à ce qu'on pense, le crépage de chignon était plutôt masculin. Le nombre d'artistes masculins que j'ai vu dire « Oui, enfin, lui, c'est pas terrible. Oh, lui, alors, je ne peux pas le piffrer. Lui, il m'a piqué ma chanson. » Alors que les femmes se citent toujours avec énormément de bienveillance. Et voilà. Donc, c'est... On va dire que j'ai pas choisi d'écrire sur les femmes parce que je voulais à tout prix interviewer des femmes, mais c'est vrai que j'en ai interviewé quand même pas mal et qu'elles ont pu m'intéresser à différents points de ma vie qui ont été assez cruciaux au final. Et puis après, ma propre position, même si je suis uniquement journaliste et pas artiste, j'ai pu aussi vivre une certaine forme de misogynie. Dans les pires des cas ou de paternalisme dans le meilleur des cas, souvent paternalisme, j'ai eu de la chance par rapport à d'autres, mais il est vrai que au bout d'un moment, quand on m'explique pour la 50e fois comment s'appelait le batteur des Beatles, c'est un peu exaspérant.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sophie Rosemont. Je rappelle que vous êtes ce soir au 106 pour une conférence pour présenter ce livre Girls Rock, qui sera donc agrémenté également d'images. Vous avez augmenté ce livre pour cette conférence, j'imagine un peu, quoi.
Oui, avec des images et des vidéos, et j'espère que tout va pouvoir. J'ai réussi à faire tout rentrer. Je crois que je me suis un petit peu enflammée sur le nombre de vidéos et d'images, mais en tout cas, il y en aura, c'est sûr, plus que de raisons.
À partir de 20h30. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me.
Radio Lomax.
Jeudi 6 février, nous accueillons au 106 ce soir Las Aves et Auré. Auré qui est avec nous. Auré, bonsoir.
Et bonsoir.
Vous avez reçu en première partie de Mailan, c'était il y a 2 ans, le 25 janvier 2018. C'était votre anniversaire.
Exactement.
Et votre première date hors de Paris. C'est un moment qui reste gravé d'une façon particulière. Quel souvenir vous avez de ce concert à Rouen il y a 2 ans?
J'ai souvenir que j'ai fait un interview juste avant.
Ouais,
c'était particulièrement
vrai.
Stressant. J'ai l'impression d'avoir dit des milliers de bêtises.
C'était la première interview?
C'était pas la première, mais j'en avais vraiment pas fait beaucoup.
Ouais.
Et du coup, j'étais pas super à l'aise. Mais c'était quand même un super moment. Et oui, effectivement, c'était mon anniversaire. Et c'était une super soirée. Et la voiture était tombée en panne avant qu'on arrive. On a dû passer la journée entière du lendemain à essayer de trouver un garagiste pour réparer la voiture, pour pouvoir repartir. Enfin, c'était vraiment une sacrée date en vrai.
Premier concert en 2016.
2018.
2018.
Ah oui, le premier concert en 2016, oui, pardon.
Dans les bars parisiens.
Oui, voilà, c'est ça, ouais.
Auré, c'est Morgane, ouais. Accompagné de Bozek à la production musicale, toujours. C'est, ça fonctionne
c'était
toujours comme
sur
ça.
C'était sur le premier EP, et là, je vais bosser avec d'autres gens un peu.
D'accord.
J'ai envie de changer.
Un EP sorti en mars 2019, ou avril?
Mars.
Mars.
Enfin, mars.
Vous veniez de passer les auditions pour Bourges, la sélection Île-de-France. Vous avez été sélectionné pour Bourges. Ça vous a apporté quoi, cette histoire-là?
Énormément de choses. Bah, énormément de visibilité, surtout, du coup, auprès des pros. Donc, j'avais déjà un tourneur derrière moi. Bah, c'est pour ça que j'étais là. Mais là, ça s'est vraiment officialisé. Et après, bah, un label. J'ai signé un label à la suite des Inouïs. Et en plus de ça, j'ai eu droit à des cours de chant.
Ah oui.
Et mine de rien, ça aide.
C'est vrai.
Ouais.
Bah, on va parler un petit peu du travail, parce que vous êtes une bosseuse quand même, j'ai l'impression, moi. Mais juste avant, peut-être, après Bourges, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, vous avez signé sur un label, ça vous a permis quoi? Qu'est-ce que vous êtes dirigé vers quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après Bourges?
Bah, en fait, un label, ça aide parce que déjà, bah, quand on tombe sur les bonnes personnes, et c'était le cas, bah, on peut avoir des conseils sur des gens avec qui travailler, sur des directions un peu à prendre, c'est une oreille extérieure, donc ça peut être intéressant quand c'est les bonnes personnes, en tout cas. Et après, bah, ça apporte beaucoup d'argent. Ça permet de financer les clips assez facilement. Donc, c'est la seule affaire qui fait mes clips. Et du coup, ils ont pu être payés sur les 2 derniers clips qui sont sortis. Donc, ça,
vous êtes resté fidèle à ces gens.
Oui, bah, c'est mes amis depuis un bon petit bout de temps. Et ils sont hyper talentueux. Je crois trop en eux. Donc, ouais, tant qu'eux, ils veulent bien bosser avec moi, c'est bon.
1000 grammes, c'est le dernier clip, c'est ça?
C'est Vacances qu'on
c'est
a sorti en juin.
C'est Vacances, le dernier clip.
Ouais,
on va en parler, justement. Cet été, vous êtes parti en vacances au Québec. Québec,
ouais.
Avec L'Homme Idéal, vous en avez fait un clip, vous nous racontez vos vacances alors du coup?
Bah oui, en fait j'ai trouvé cet homme idéal et j'ai décidé de l'embarquer donc au Québec et on a trouvé une petite voiture et on a fait notre road trip en disant merde au reste de la société, voilà, c'était merveilleux.
Votre homme idéal, c'est un mannequin?
Ouais, alors un mannequin en plastique, il faut le préciser,
ouais.
Parce que les gens tout de suite ils se disent ça y est, fait de la musique, elle sort avec un mannequin,
ouais. Voilà,
un mannequin en plastique.
Et ça veut dire quoi, ça?
Bah, en fait, à la base, la toute base de l'idée, c'était d'avoir une poupée sexuelle, mais version homme. On trouvait ça marrant, en fait.
Mmh.
Parce qu'on se disait, bah, ça inverse les rôles. Et y avait déjà eu des films qui avaient été faits dans le version inverse, donc où un homme est avec une femme en plastique. Alors, je ne sais plus comment s'appelle cet acteur. Enfin bref, ce n'est pas si grave. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire ça. Et finalement, les poupées sexuelles, ça coûte très cher. Et c'est difficile à trouver et ça plie pas les jambes, je crois. Enfin, en tout cas, il fallait payer plus cher. Et du coup, on s'est dit, bon, on va trouver un mannequin. Et...
Vous n'aviez pas les moyens pour payer les jambes qui se plient, quoi.
Non, c'était dans la voiture, c'est vraiment pas pratique.
Ouais.
Donc là, on a pris un mannequin où on pouvait enlever le buste. Et du coup, on pouvait le mettre dans la voiture sans les jambes. Et voilà, et puis ça gardait un peu l'idée du drôlesque un peu. Alors après, on n'a pas collé au thème exactement de la musique. Mais dans les 2 derniers clips, on a choisi de pas obligatoire. Enfin, je pense que les paroles parlent pour elles-mêmes et enfin, ça, c'est assez clair.
Mais c'était de vraies vacances ou est-ce que vous êtes parti au Québec vraiment pour ce clip
non,
ou pour faire de la musique?
C'était pas des vacances. Après, on a vécu plein de choses super cool. Mais en fait, à la rentrée 2019, ouais, c'est ça, j'ai eu le faire. En France et du coup c'est eux qui m'ont permis d'aller au Québec grâce à un dispositif qui fait se rencontrer 4 artistes québécois et 4 artistes français et donc d'abord tout le monde passe une semaine en France et ensuite on passe tous une semaine là-bas en résidence donc il y avait une semaine qui était prévue tous ensemble, on devait faire un spectacle donc chacun jouait les musiques des uns et des autres mais en devenant les musiciens des uns et des autres donc c'était assez cool en vrai. Et ça se terminait sur la scène Belle des Franco de Montréal. Donc c'est vraiment la plus grosse scène. C'était un peu la pression, mais c'était génial. Et suite à ça, ma bookeuse avec qui je travaille, donc celle qui cherche mes dates, on a profité pour contacter les Franco de Montréal et leur a dit « Bon, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de lui faire un concert à son nom ?» Et du coup, on a réussi à avoir une scène à mon nom. Et c'était génial parce qu'il y avait du monde, les gens ont beaucoup aimé et j'ai eu énormément de bons retours. C'était vraiment une super date. Et en même temps, bah, on a été voir le label, on leur a dit « Bon, voilà, on était avec la salle à faire. » On a dit « Bon, il n'y aurait pas moyen de débloquer des petits billets d'avion et on fait un clip. » Et du coup, ils ont dit « Bah ok. » Et du coup, ils nous ont payé le billet d'avion et on a été tourner là-bas.
Ça, c'est pas mal parce que ça vous permet de mettre un pied aussi au Québec où effectivement, il y a peut-être moyen de faire un bout de parcours, quoi.
Ouais, de trouver une petite partie de public, ouais. Et puis maintenant, en plus, j'ai rencontré un jeune homme qui est manager là-bas et qui me cherche des dates pour que j'y retourne. Donc, il y a moyen que j'y retourne là en juillet. Donc, ça se fait petit à petit, mais ça se fait et c'est cool.
Les relations amoureuses, la société de consommation, le monde de l'entreprise avec Milgram, ça commence à esquisser aussi les thèmes que vous souhaitez développer. Vous évoquez une société assez oppressante finalement, même si c'est avec beaucoup de sourires. C'est comme ça que vous la ressentez, cette société-là ?
Bah, c'est comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai commencé à faire mes premiers stages après ma formation, quand j'ai commencé à travailler. Cette idée de hiérarchie que je déteste particulièrement. Et du coup, ça m'a beaucoup inspirée pour faire des morceaux. Et je voulais plutôt utiliser un ton positif parce que j'avais envie que les gens prennent plaisir et des refrains dans la tête assez facilement et que justement ça puisse parler de ça en fait.
C'est marrant parce que je pensais à Bas la hiérarchie de Stupeflip. On avait parlé d'Odezen la dernière fois que vous étiez venu, mais Stupeflip finalement, dans les thèmes aussi abordés, on va dire, ça fait partie des gens que vous aimez bien.
C'est un peu moins foufou et plus chanson, mais effectivement, je les cite assez souvent, Stupeflip.
Alors, Milgram avec ce clip très japonisant, en immersion dans la virtualité où vous réglez son compte à un patron de sushi junk food un peu. Vous avez vécu vraiment ce genre de pression-là au travail ?
Alors, moi, ce que j'ai vécu, lors des stages, c'était des stages en audiovisuel, donc c'était complètement différent. En fait, moi, la principale, en fait, j'ai bossé pendant 3-4 ans, longtemps, un an et demi dans un bar, mais c'était un bar... un petit bar, c'était pas une grosse entreprise. Et après, j'ai bossé dans un restaurant pendant 3 ans où j'étais serveuse. Et finalement, je me suis presque reconnue dedans, mais c'était une super ambiance en vrai. Le restaurant dans lequel j'ai bossé, c'était vraiment génial parce que justement, c'était une maman et sa fille qui avaient ouvert ça. Donc c'était très familial, c'est très très loin de la grosse entreprise. En fait, j'ai fait un mois, mais vraiment, il m'a suffi d'un mois dans une entreprise, pas une multinationale, je crois, mais qui a plusieurs magasin en France et ça m'a dégoûté. En fait, c'est un magasin qui se veut un peu healthy, cool, happy. Et en fait, le sous-directeur était quelqu'un de profondément insupportable qui parlait à tout le monde comme de la merde. Et il y avait une femme dans ce magasin qui bossait là depuis 20 ans et qui, pour aller faire une pause pipi, elle devait se cacher en fait. Alors que c'est une pause pipi et on avait une heure de pause par jour et enfin c'était juste, enfin je trouvais ça un peu inhumain et finalement quand on rentrait à l'arrière, la première chose qu'il fallait regarder c'était les ventes, là on est à 15% en moins, il y a eu les attentats, faut vendre et j'aime pas vendre de manière générale et ça cette expérience m'a hautement dégoûtée et en plus de ça j'avais un peu lu des livres autour de ça et bon, y a d'autres personnes que j'avais rencontrées qui m'avaient un peu calmée dans cette idée de société, d'hiérarchie, il y en a toujours. Mais alors, cette expérience-là, je me suis dit, plus jamais je bosse dans une grosse boîte.
Et ce qu'on ressent aussi, c'est la difficulté de réagir quelquefois. D'ailleurs, dans le clip, c'est une réaction tout à fait virtuelle.
En fait, Milgram, moi, ce qui m'importait, c'est l'expérience quand elle a été faite, donc l'expérience de Milgram. Lui, il s'appuyait sur le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je me suis demandé aujourd'hui quels sont les principaux dangers, en fait, parce qu'on se dit toujours, oui, on ne retombera pas dans ces histoires-là. Et je me disais, aujourd'hui, les principaux dangers, c'est le privé, c'est les énormes boîtes qui parfois sont plus puissantes que des États. Et finalement, quand on est employé dans une grosse boîte, on a un peu les mêmes, malheureusement, les mêmes, j'arrive pas à trouver mes mots... En gros, on est impliqué autant dans ce qui se passe que quand... Parce que, en fait, la question de Milgram, c'était comment est-ce que c'est possible qu'il y ait tant de morts, en sachant qu'il y avait qu'un groupe de personnes qui avaient les idées nazies, et il fallait qu'il y ait des gens pour appuyer sur les boutons. Et finalement, aujourd'hui, en fait, en tant que consommateur, on a des choses, on doit faire attention. Mais en tant que travailleur aussi, finalement, quand on bosse pour une boîte avec laquelle on n'est pas d'accord dans les idées, finalement, on aide cette boîte à évoluer aussi. Alors, je ne veux pas être moraliste parce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas le choix, mais c'était une petite question que je me posais, quoi, et je voulais en faire une chanson.
Vous dites que vous voulez produire ce que vous avez vécu avec certains livres, certains disques, une bulle de réconfort aussi. Quels sont ces livres, par exemple, qui ont produit ça sur vous des...
Ah, le livre qui fait que je parle de ces thèmes-là
Qui fait que vous vous êtes retrouvé dans une bulle de réconfort, on va dire, qui vous a réconforté.
Ah, des livres qui m'ont réconforté.
Qui vous ont peut-être réconcilié avec l'humanité, avec...
Non, moi j'ai toujours cru en l'humanité. Bon. En soi, moi je me suis toujours... on m'a toujours appelé la bisounours. Et vraiment, je... pour moi, la forme de vérité, c'est quelque chose qui se rapproche d'un peu de l'amour, tout ça. Et ça, j'y crois. Et c'est juste que ça arrive de dériver et il y a des gens qui ne se rendent pas compte, il y a des cons partout, voilà.
Alors vous avez une formation piano, jazz et MAO, des études d'ingé son à Toulouse. Vous êtes d'ailleurs très attentive au logiciel de production, ceux qui vous accompagnent aussi sur scène. Vous expliquez dans une interview pour RTS, une interview tout à fait sympa qui est une radio suisse. Une interview que vous avez donnée en novembre dernier, que l'expérimentation vous tente pas mal, l'improvisation en tout cas avec les machines sur scène. Vous en êtes où de la scène et de ce que vous vivez sur scène, ce que vous pouvez tenter sur scène?
Là en fait, j'ai donc les séquences à l'époque, elles étaient sur l'ordinateur. C'était Boza qui avait les séquences. Et là, maintenant, je les ai prises sur mon push. Donc, c'est une espèce de télécommande du logiciel Ableton. Et là, pour l'instant, en fait, je peux envoyer, si je veux, les couplets, les refrains, tout ça. Le fait qu'il y ait Pablo et que ce soit un musicien, ça fait que lui, il est complètement libre, en fait. Enfin, il dépend de moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut, si on veut partir dans un...
Une improvisation.
D'un côté, voilà, ou d'un autre, on peut choisir. Par exemple, là, j'en suis pas à l'improvisation pure parce qu'il faut qu'on rajoute des nouveaux morceaux, il y a encore plein de choses à faire. Mais par exemple, il y a un moment du live où on s'est dit, si les gens sont chauds, on fait ça, et si les gens sont pas chauds, on fait ça. Donc il y a déjà un petit Y possible dans le live, et l'idée, ce serait d'aller plus loin dans ça, et après, tenter un peu plus d'expérience avec la technologie, je sais pas si je suis censée en parler déjà maintenant parce que c'est pas sûr du tout, mais par exemple je pense aux gants. Il y a des gants qui existent qui permettent de contrôler en MIDI des instruments, et la boîte que j'ai contactée, c'est une boîte qui est basée à Montpellier, donc en plus ce serait trop cool de bosser avec une petite boîte française. Et je me tâte à faire ce genre de choses parce que ça amène du spectacle, ça amène du beau, et moi j'aime bien la technologie, j'ai envie d'exploiter ça, quoi. Ça fait du spectacle et en plus comme c'est des gants, ça implique le corps et la danse, donc ça peut être cool. Mais pour l'instant, c'est une idée, surtout, je ne les ai pas encore achetées.
Vous nous aviez expliqué, là, on revient au côté un peu labeur de la musique, du travail qu'il y a à fournir. Vous nous disiez, il y a 2 ans, que vous aviez beaucoup étudié l'écriture rap en vous plongeant dans certains albums. O2N, on l'a dit tout à l'heure, Solar, I Am, Ombre et Lumière, un atelier d'écriture hip-hop, mais aussi avec un livre sur les figures de style. Vous avez travaillé sur des stages pour la voix, vous le disiez tout à l'heure en début d'interview, un travail sur la scène. On sent qu'il y a comme un apprentissage sur la longueur que vous avez mis en place. C'est comme ça que vous envisagez le travail d'artiste ?
Ah ouais, complètement. Moi, ce que j'imagine, c'est apprendre en permanence, en fait, parce que déjà, c'est beaucoup plus amusant. Ça permet de voir l'après et d'avoir toujours des choses à faire. Et franchement, le truc, c'est que j'ai une forteresse de choses à apprendre encore. Et du coup, j'ai envie de continuer à... Puis en fait, apprendre, lire, être curieux un peu de ce qui se passe autour, ça permet d'avoir toujours des idées nouvelles et de se renouveler assez naturellement. J'ai besoin de m'amuser et c'est ça qui me permet de m'amuser. Puis il y a toujours moyen d'aller plus loin.
C'est ça, chaque brique construit l'univers petit à petit. Ça.
Là, je ne l'ai pas encore. Je sens que il faut que je travaille encore.
Vous dites dans votre petit ego trip, notamment sur l'EP, que Auré petit à petit creuse son nid. En fait, c'est ça que vous êtes en train de faire tranquillement. On attend la suite.
J'espère qu'elle va arriver vite.
Merci Morgane.
Merci à toi.
À très bientôt.
Salut.
Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. Les concerts cette semaine au 106, ça commence demain soir avec un concert de Rimden en coproduction avec Rouen Jazz Action. Ce sera dans la grande salle et pendant ce temps-là dans le club, la suite des nuits de l'Alligator avec les groupes Kelly Finningan et Bernard Adamus. Jeudi 13 février, concert de la Ruquette à nous et samedi 15 février, les nuits de l'Alligator dans le club avec The Mystery Light, King Biscuit et Rod Adala. Et enfin, concert de Lorenzo avec le rappeur rouennais ADM. À la semaine prochaine.
Aujourd'hui, je suis trop efficace, 33 ans comme Jésus quand il a quitté la place au bastion. On m'a dit sois sage et perspicace, je suis à l'œil aux 10 doigts et il n'y aura pas d'impasse. De la tête aux pieds, je suis des chiffres animés sur un écran de PC dans une boîte au placé. Mon boss est juste à côté, il dit de continuer. Et comme je suis engagée, je continue à frapper. L'heure est au fric et au blé, faut multiplier les poignées. Quoi qu'il se passe à côté, j'ai pas le temps d'y penser. Tout plein de bonne volonté, je suis un type à croquer, intelligent et doué, je me dois d'être efficace. Arrivé pour un meeting en privé, il fallait tout expliquer de ma mission à plier. Mon cœur s'est vite arrêté, le sujet semblait vraiment laid, mais je suis un peu mal placée pour un avis à donner. J'ai choisi de me calmer dans une boîte au placé. On maîtrise son sujet, c'est pas à moi d'y penser. Quoi qu'il se passe à côté, je suis des chiffres animés. Mon boss est juste à côté, je me dois d'être efficace. Dans un conflit de pensées, je voudrais tout arrêter, je continue à frapper. Un jour je me suis levée, je voulais tout arrêter. Mon boss m'a bien regardé.
Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer.
Je veux vous voir efficace. Comique, agentique, mon cœur dit de tout arrêter quand mon corps continue à frapper au milieu de tous ces gens. Je ne veux pas être le raté, le rebelle à deux balles qui s'impose, qui fait tout foirer. Cela dit, j'ai pas compris, les choses se font petit à petit. C'est probablement le souci casé dans ma conscience. Je suis un petit point qui soi-disant fait avancer la science. Il y a plus de 1000 grammes dans un crâne. Il y a plus de 1000 grammes dans un crâne.